La Sociale Le Mag, un podcast de la Cour de cassation. La jurisprudence racontée par ceux qui la font.
Bonjour, aujourd'hui parlons sport puisque les Jeux Olympiques à Paris font l'actualité avec nos invités Alain Lacabaratz, président de chambre honoraire à la Cour de cassation, membre du comité d'experts de l'Organisation internationale du travail et ancien conciliateur au Comité national olympique et sportif français.
Bonjour Clélia Prieur.
Et Philippe Florès, conseiller à la Chambre sociale de la Cour de cassation et conciliateur au Comité national olympique et sportif français.
Bonjour Madame la conseillère référendaire.
Nous vous proposons un numéro spécial thématique consacré au droit du sport. En effet, le sport peut être appréhendé par le droit sous de nombreuses facettes. Pour en parler, mes invités ont choisi d'illustrer plusieurs situations. Mais d'abord, rappelons comment le droit du sport est arrivé à la Cour de cassation. L'histoire commence avec la création du Code du sport en 2006. Il remplace plusieurs lois françaises, en particulier une loi de 1984 relative au développement des activités physiques et sportives. La codification a pour objectif de créer une réglementation uniforme. C'est notamment permettre aux associations, sociétés et fédérations sportives de souscrire des garanties d'assurance couvrant leurs responsabilités civiles, celles de leurs préposés salariés ou bénévoles et celles des pratiquants du sport. Mais en réalité, l'histoire a déjà commencé depuis 1894, avec l'apparition du sport moderne et la renaissance des Jeux Olympiques par l'historien français Pierre de Coubertin. À la Cour de cassation, tout commence un siècle plus tard par la chute d'un skieur dans un gouffre. Dans ce premier arrêt de 1993, il s'agit d'une affaire dans laquelle un skieur glisse dans un gouffre et se blesse mortellement alors qu'il empruntait une piste fermée. La question se posait de l'imprudence de la victime, car le skieur avait été clairement et normalement informé de la fermeture de la piste. Au-delà de l'application par la Cour de cassation des règles de procédure pénale, cette affaire illustre les obligations respectives des responsables du domaine skiable et des skieurs pour assurer la sécurité de cette pratique sportive. Alors, pour continuer sur la facette pénale du droit du sport, Alain Lacabaratz, pouvez-vous nous illustrer d'autres situations emblématiques telles que le dopage, la corruption ou les violences volontaires ?
Effectivement, le Code du sport incrimine comme infraction pénale diverses situations touchant au dopage. C'est par exemple la détention de produits dopants ou l'opposition aux opérations de contrôle. Dans la première affaire de détention de produits dopants à laquelle je pense, un cycliste professionnel qui participait au Tour de France 2008 a été déclaré positif au contrôle. Il se dopait à l'EPO.
Précisons que l'EPO est une substance vénéneuse dont le commerce ou l'emploi constitue un délit.
Exactement. Le cycliste a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt l'ayant déclaré coupable, alors qu'il avait déjà été condamné en Italie pour des faits antérieurs de dopage. Il invoquait la règle selon laquelle on ne peut pas être poursuivi deux fois pour les mêmes faits. Mais la chambre criminelle a rejeté en 2012 son pourvoi en approuvant la cour d'appel qui avait estimé que les faits commis en France s'analysaient en un délit distinct de celui pour lequel l'intéressé avait déjà été condamné en Italie.
Est-ce toujours les coureurs professionnels qui sont incriminés dans les affaires de dopage ?
Non, ce sont parfois les officiels ou organisateurs de la course qui sont poursuivis pour opposition aux opérations de contrôle. Par exemple, lors d'un Grand Prix cycliste en 2000, un médecin assermenté, coordonnateur de la lutte antidopage, a voulu opérer des contrôles inopinés. Mais les organisateurs ont refusé, au prétexte qu'ils n'avaient pas été prévenus et que la liste des coureurs à contrôler n'avait pas été affichée.
Ils ont été condamnés par le tribunal correctionnel à des amendes, ainsi qu'à des peines complémentaires, notamment celle d'interdiction pendant 6 mois de participer à l'organisation ou au déroulement d'une compétition dans le domaine du cyclisme.
Oui, et ils ont alors formé un pourvoi en cassation. La chambre criminelle a approuvé la cour d'appel qui a analysé le refus de coopérer comme constitutif d'une opposition au sens du code de la santé publique. Mais elle a cassé l'arrêt de la cour pour avoir prononcé des peines complémentaires non prévues à l'époque pour le délit reproché.
En matière de corruption, la cour de cassation est parfois amenée à traiter d'affaires de corruption liées à l'attribution de compétitions sportives.
Tout à fait. Cette situation est illustrée par une affaire récente impliquant des membres du Comité international olympique. Il s'agissait de faits délictueux de corruption relatifs à la candidature du Qatar aux Jeux olympiques de 2016 et 2020 et aux championnats du monde 2017 pour l'obtention de l'organisation de ces compétitions en contrepartie de fonds versés à des sociétés. Mais la Cour de cassation a déclaré les juridictions françaises incompétentes pour en connaître. En effet, les auteurs et les victimes étaient de nationalité étrangère et les faits de corruption commis au Qatar, au Sénégal ou à Monaco.
On comprend bien que pour que la loi pénale française soit applicable, il faut un lien avec le territoire de la République. Soit l'infraction de corruption est commise en France, soit il existe un lien d'indivisibilité avec une autre infraction commise sur notre territoire. Et en matière de violence volontaire, Alain Lacabaratz, que peut-on raconter de notre jurisprudence dans le domaine sportif ?
Le délit de coups et blessures volontaires donne lieu également à différents arrêts de la Cour de cassation, en particulier dans le domaine du football ou dans celui du rugby. Il s'agit de sports violents en eux-mêmes, dont l'exercice entraîne assez souvent des atteintes involontaires à l'intégrité physique des autres joueurs. Lorsqu'au contraire, les violences commises à l'occasion d'une manifestation sportive sont volontaires, la Cour de cassation veille à ce que cette qualification soit retenue. Cette qualification suppose que l'auteur des coups ait volontairement porté atteinte à la personne d'autrui.
C'est par exemple le cas d'un gardien lors d'un match de football qui fait un balayage contre un attaquant pour éviter un but, la violence du geste lui ayant brisé la jambe.
Oui, et c'est aussi le cas d'une agression contre un joueur de rugby au cours d'un regroupement initié suite à un plaquage régulier. Il s'en est suivi une violente bagarre impliquant plusieurs joueurs des deux équipes. La Cour de cassation approuve la Cour d'appel qui a constaté que les 3 prévenus, qui étaient des joueurs expérimentés, ont agressé la victime par un coup de pied équipé de chaussures à crampons et se sont acharnés sur elle en la rouant de coups alors qu'elle était au sol.
Pour résumer, la faute volontaire implique non seulement un manquement aux règles du jeu, mais aussi une volonté délibérée de porter atteinte à la personne d'autrui. Et la question de la preuve est cruciale, facilitée aujourd'hui par l'enregistrement vidéo des matchs. À ce propos, Alain Lacabaratz, la diffusion télévisuelle des matchs fait partie de la médiatisation du sport. Et cette diffusion donne lieu à une autre facette du droit, les infractions de presse.
Il n'est pas étonnant que la médiatisation du sport donne lieu à un contentieux de presse, soit sous l'angle des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la diffamation et l'injure, soit pour violation des dispositions de l'article 9 du Code civil sur la protection de la vie privée et du droit à l'image.
Pouvez-vous nous parler d'une affaire de diffamation sous l'angle de la loi sur la liberté de la presse ?
Oui, je vais vous raconter une affaire d'allégation de trafic de produits dopants jugée en 2007. Un cycliste avait porté plainte pour diffamation publique contre le directeur d'un journal en raison de la publication d'un article mettant en cause. Il fondait ses allégations sur la diffusion sur le site internet du champion de messages proposant la fourniture de créatine et sur l'interdiction en France de ce produit dopant. Mais le journaliste, qui invoquait comme moyen de défense la vérité des faits publiés, a perdu en appel et en cassation, car les juges étaient fondés à rejeter le moyen de défense invoqué. En effet, les documents produits par le journaliste portaient sur des faits postérieurs à ceux dénoncés dans l'article incriminé et non sur ceux relatés dans cet article.
Le second cas d'infraction de presse que vous avez cité est relatif à la protection de la vie privée et du droit à l'image. Ne sort-il pas du champ pénal pour celui du droit civil ?
Tout à fait. Toute personne victime d'un dommage peut obtenir l'indemnisation de ses préjudices devant une juridiction civile. Dans une affaire jugée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en 2004, une chaîne de télévision a diffusé, lors de 3 journaux télévisés, pour illustrer une rubrique relative au dopage dans le milieu du sport cycliste, une photographie prise sur un champ de course hippique représentant les personnes mises en cause aux côtés d'un couple d'entraîneurs. Ces derniers se sont plaints de l'atteinte à leur image, car ils n'avaient pas donné leur accord à la diffusion de cette photographie prise dans un contexte étranger à son utilisation.
Et la Cour de cassation affirme que le seul constat de l'atteinte au droit de chacun de s'opposer à la publication de son image permet d'indemniser le préjudice en résultant sur le fondement de l'article 9 du Code civil. Nous abordons avec notre second invité, Philippe Florès, une autre facette du sport appréhendée par le droit, celle du droit du travail. Le sport a ses singularités, mais le droit s'applique au rapport de travail des sportifs. Autrement dit, en coulisses du fun, de la sueur et de la flamme olympique, les clubs, les ligues, les fédérations, les associations sportives sont des employeurs comme les autres. Et les sportifs, qu'ils soient joueurs, coureurs, athlètes ou entraîneurs, sont des travailleurs comme les autres. Philippe, pouvez-vous nous illustrer le principe selon lequel le sport n'est pas affranchi des règles communes par quelques arrêts emblématiques récents de la Chambre sociale de la Cour de cassation ?
On le comprend très bien avec l'exemple de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée. Dans un arrêt du 29 novembre 2023, nous avons affirmé qu'un club, relégué en division inférieure, ne peut pas rompre le contrat à durée déterminée du joueur qui a refusé la diminution de sa rémunération en lui disant qu'il est libéré de son contrat sans indemnité, même si la convention collective le prévoit. Certes, cette relégation est de nature à plonger le club dans des difficultés économiques, mais cet aléa est prévisible et ne diffère guère de se rencontrer par toutes les entreprises dans le cadre de leur activité économique. L'employeur ne peut échapper aux règles de droit commun. Et une convention collective ne peut pas modifier les causes limitatives de rupture du contrat de travail à durée déterminée prévu par le Code du travail, qui résulte du consentement mutuel des parties, de la faute grave du salarié, de la force majeure ou encore d'une inaptitude médicalement constatée. Nous avons donc approuvé la Cour d'appel qui, ayant constaté qu'à la suite de sa relégation en division inférieure, le club avait proposé au joueur une diminution de sa rémunération brute de 50%, avant de prendre acte du refus de ce dernier et de lui notifier la fin de la relation contractuelle, en a déduit que la rupture du contrat à durée déterminée était illicite.
Cet arrêt a aussi été l'occasion de se prononcer sur la recevabilité de l'action du salarié au regard de l'article 271 de la charte du football professionnel.
Tout à fait. L'employeur invoqué la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de la commission juridique de la Ligue du football professionnel. Cependant, si les dispositions de la charte professionnelle donnent compétence à la Ligue de football pour connaître de tous les litiges entre clubs et joueurs, elles n'instituent pas une procédure de conciliation de nature à faire obstacle à la saisine du juge. Le salarié pouvait donc saisir directement la juridiction prud'homale.
Un autre arrêt du 29 novembre 2023 est intéressant à citer, au regard non pas du Code du travail, mais des règles du droit civil des contrats. Il pose la question de savoir si on peut renoncer à une condition défaillie.
C'est en réalité une question de pur droit civil, à l'égard de faits qui suscitent la plus grande attention. Dans cette affaire, un joueur international de football d'un club important change d'agent sportif. Il conclut un accord avec son club, qui souhaite le voir partir, pour que ce dernier prenne en charge les indemnités conséquentes dues à l'ancien agent, sous condition suspensive que le joueur quitte effectivement le club à une date précise. Cependant, ce n'est qu'après la date butoir que son transfert est finalement conclu avec un club étranger. La condition tenant à sa date de départ n'était donc pas remplie. Le joueur a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à honorer l'engagement de prendre en charge les sommes dues à l'ancien agent. Il s'appuyait sur un mail dans lequel le président du club avait répondu « OK deal » à ce sujet. Or, la Cour d'appel a fait droit à la demande du salarié considérant que « OK » valait renonciation à la défaillance de la condition suspensive. Mais la Cour de cassation a cassé cet arrêt car la caducité du contrat était acquise et seul un nouveau contrat aurait pu faire renaître cette obligation.
Pouvez-vous, Philippe Florès, nous évoquer une dernière histoire, celle toute récente d'un joker médical dans le monde du rugby ? Elle est intéressante car elle pose une question de compatibilité de la pratique sportive professionnelle avec le code du sport, qui a pourtant été directement inspiré par la doctrine sportive.
Il s'agit d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 19 juin dernier. Cette affaire pose la question de la forme du contrat de travail en cas de recours à un joker médical. S'agit-il d'un simple prêt de main-d'œuvre, qui peut être organisé par les partenaires sociaux en application d'une délégation du législateur, ou bien d'un véritable contrat de travail qui doit revêtir la forme d'un contrat à durée déterminée ?
Oui, précisons que le terme de joker médical, aussi appelé pigiste médical, consiste en la possibilité offerte à un club de remplacer un joueur blessé par un autre joueur, en dehors des périodes officielles de recrutement. Et cette possibilité existe dans plusieurs sports professionnels comme le foot, le rugby ou le basket.
Exactement. C'est l'une des exceptions au principe de stabilité des équipes, qui est une composante essentielle de l'équité des compétitions. Cette exception est organisée par les textes légaux, conventionnels et par le règlement de la Ligue. Dans notre affaire, le joueur a été prêté par convention tripartite d'un club de rugby professionnel à un autre. À la fin de la saison, il a réintégré son club d'origine, mais son contrat n'a pas été renouvelé. Il s'est retrouvé sans club. Il a réclamé la requalification de cette convention de mise à disposition irrégulière en contrat à durée indéterminée avec indemnité de rupture à la charge du club d'accueil. Ce dernier, soutenu par la Ligue, s'abritait derrière des textes conventionnels pour faire échapper la relation contractuelle à la qualification de contrat de travail en disant qu'il s'agissait d'une convention sui generis. Mais la Cour de cassation donne raison aux salariés. En effet, d'une part, le club d'accueil assumait toutes les obligations d'un employeur et la relation avait toutes les apparences d'un contrat de travail. D'autre part, en l'absence de textes légaux en ce sens, il n'est pas possible de laisser les partenaires sociaux adapter les règles générales d'ordre public, de recours au contrat de travail à durée déterminée, fût-il sportif, ni de créer une convention sui generis en marge de la loi.
On voit bien, à travers ces exemples de la chambre sociale, comment le droit vient réguler les pratiques sportives. Non seulement les multiples facettes du sport touchent tous les domaines du droit dans toutes les chambres de la Cour de cassation, mais encore le droit recadre le sport professionnel dans des règles communes. Sans prétendre en faire un tour exhaustif, je vous propose encore deux illustrations. Alain Lacabaratz, que pouvez-vous nous dire, en quelques mots, de la responsabilité civile ?
C'est probablement la matière pour laquelle la Cour de cassation rend le plus grand nombre de décisions. Il s'agit de cas dans lesquels un rapport contractuel existe entre l'organisateur d'une manifestation sportive et le pratiquant victime d'un accident. Par exemple, la première chambre civile rappelle dans un arrêt de 2017 que l'obligation de sécurité de l'organisateur est en principe une obligation de moyens. C'est donc à la victime de prouver que l'auteur a commis une faute. Il y a aussi des cas d'accidents survenus en dehors du cadre contractuel. La deuxième chambre civile a précisé, dans un arrêt de 2022, les conditions dans lesquelles un athlète professionnel, privé d'une chance d'être sélectionné aux Jeux Olympiques par suite d'un accident de la circulation, peut être indemnisé de son préjudice.
Et j'imagine que le contentieux du droit des affaires, traité par la chambre commerciale, est également bien nourri en droit du sport.
Effectivement, le droit des affaires est présent sous de nombreux aspects dans la jurisprudence de la Cour de cassation. On peut par exemple citer la protection des marques, comme la célèbre affaire Olympris, jugée en 2003, dans laquelle le Comité national olympique et sportif français a agi en responsabilité civile pour agissement parasitaire en raison de l'utilisation des marques Olympris pour la publicité d'une campagne annuelle de promotion à prix réduit dans des grandes surfaces.
Le sujet de la protection des signes, marques et emblèmes olympiques est passionnant et j'invite nos auditeurs à consulter sur le site internet de la Cour de cassation la rediffusion du récent colloque du 8 mars 2024 sur les propriétés olympiques sous la coordination du Centre de droit et d'économie du sport de l'Université de Limoges. Pour terminer, je suis curieuse de savoir ce qu'un conseiller en activité à la Cour de cassation fait au Comité national olympique et sportif français. Philippe Florès, expliquez-nous votre rôle dans cette institution nationale.
Le Comité olympique français remplit notamment une mission de règlement des litiges sportifs confiée par le législateur. À ce titre, il a la charge du préalable de conciliation et aussi une mission d'arbitrage. L'article L141-4 du Code du sport institue en effet une procédure originale de conciliation concernant tous les litiges opposant les fédérations sportives aux groupements sportifs qui leur sont affiliés ou à leurs licenciés, à l'exception des litiges mettant en cause des faits de dopage. Ce préalable de conciliation est obligatoire lorsque le litige porte sur une décision prise par les fédérations ou ligues dans l'exercice de leur mission de service public. Ces litiges peuvent porter sur des décisions relatives à l'organisation des compétitions, aux sélections, aux classements, aux mesures prises à la suite de la pandémie ou des mesures disciplinaires.
On comprend bien, Philippe, que le conciliateur cherche, dans un premier temps, à trouver avec les parties une solution amiable, comme vous avez pu le faire lorsque vous étiez juge d'instance. Un accord peut ainsi être formalisé au terme de l'audience.
Exactement. En cas d'échec, le conciliateur va proposer une solution au travers d'une proposition motivée en droit et parfois en équité. À défaut d'opposition par l'une ou l'autre des parties dans les 15 jours suivant la notification de cette proposition, les mesures sont réputées acceptées et deviennent exécutoires. En cas d'opposition, la proposition est caduque et il appartient aux parties de saisir le juge compétent. L'intérêt du dispositif est de permettre aux parties de pouvoir réfléchir à la solution du litige au vu de la proposition motivée du conciliateur, sans être tenues à une formalité quelconque pour finalement lui permettre de prospérer. En cas d'opposition des parties, le débat devant le juge compétent peut également se nourrir de la proposition du conciliateur.
C'est la fin de notre podcast. Vous trouverez les références des arrêts cités dans ce podcast thématique « Droit du sport » en l'honneur des Jeux Olympiques 2024 de Paris sur le site internet de la Cour de cassation, rubrique « Kiosque ». Vous trouverez également dans cette rubrique un supplément JO 2024 à la dernière lettre de la Cour de cassation. Merci chaleureusement à nos deux invités pour leur participation.
Merci Clélia.